J'en viens aujourd'hui donc à la présentation de notre conférencier. La conférence de Robert Rochefort s'inscrit dans un module ou dans un cycle thématique concernant la production et la circulation des richesses, dimension connue et moins connue de l'économie. Cette série a été commencée mercredi dernier avec une conférence de Jean-Hervé Lorenzi sur économie et innovation. Et hier, il a été question de la globalisation financière. Demain, il sera question du passé et de l'avenir du travail. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Robert Rochefort de nous parler du consommateur roi. Alors, Robert Rochefort est né en 1955. Il est statisticien de formation. Il est ancien élève de l'École nationale de la statistique et d'administration économique. Et après avoir travaillé dans un service de statistiques publiques, il est devenu le directeur général du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC. Vous pouvez l'entendre, comme moi d'ailleurs, je crois que c'est à force de l'entendre que j'ai décidé de l'inviter, vous pouvez l'entendre toutes les semaines dans l'émission de Dominique Souchier sur Europe 1, c'est arrivé cette semaine, où il commente justement l'actualité économique du point de vue justement du marché et surtout de la consommation, de la publicité aussi. Il est l'auteur de deux ouvrages. L'un, La société des consommateurs, qui est paru chez Odile Jacob en 1995, et un autre, Le consommateur entrepreneur, qui est paru chez Odile Jacob en 1997. Il m'a dit qu'il préparait dans quelques mois un autre ouvrage, j'en ignore encore le titre, il vous le dira peut-être, et je lui cède la parole pour 50 minutes de conférence sur le consommateur roi. Merci.
Merci beaucoup. Alors, le client roi, le consommateur roi, tel est le titre de cette conférence. C'est évidemment un peu provocant parce que c'est à la fois une phrase que nous avons tous à l'esprit depuis longtemps. Moi, je suis fils de petit commerçant, donc j'ai entendu ma mère dans les années 60 passer son temps à dire que le client était roi dans le commerce. Et en même temps, évidemment, cela n'avait pas de soi. Et je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas le sentiment à proprement parler que le consommateur soit ce roi dont on parle bien souvent. Alors, ma conférence va être composée de la façon suivante. Je vais d'abord vous faire une petite introduction pour vous dire pourquoi, effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, on peut dire le consommateur roi, on peut croire que le client est roi. Ensuite, je vais vous faire la partie centrale de ma conférence qui sera destinée à vous montrer comment, d'un point de vue un peu formalisé, on peut comprendre le comportement du consommateur dans cette société hyper-économique dans laquelle le consommateur est au moins autant indispensable que le producteur, parce que s'il n'y a pas de consommateur, eh bien les producteurs n'ont pas de clients. Et c'est vrai à cet égard, je confirme ce qui vient d'être dit il y a un instant, alors que la science économique a beaucoup privilégié l'étude des systèmes de production, des logiques de rentabilité du capital, des organisations du travail, la consommation a longtemps été une sorte de parent pauvre, une façon de considérer que certes que c'est utile la consommation, mais que c'est loin d'être quelque chose qui a un poids dans les structurations économiques et sociales de nos sociétés. Et puis enfin, en conclusion, je vous dirais que si le consommateur est roi, il est peut-être aujourd'hui un roi nu. Alors, commençons donc par l'introduction sur cette idée qu'il n'est pas absurde de considérer aujourd'hui que le consommateur est roi. Et je voudrais, dans cette introduction, vous donner deux ou trois exemples qui sont dans le fond, et pendant toute cette conférence, j'aimerais que vous soyez intéressés doublement au sujet. D'abord, par la réflexion que nous allons avoir ensemble pendant un peu plus d'une heure avec les questions sur ce thème. Et puis aussi, j'aimerais tout simplement que vous vous retrouviez dans votre vie quotidienne, puisque que vous aimiez ou que vous haïssiez la consommation, vous êtes des consommateurs. Et donc, lorsqu'il s'agit de comprendre le comportement du consommateur, il s'agit aussi tout simplement de voir, d'analyser, d'étudier la façon dont nous sommes nous-mêmes dans la vie quotidienne. Alors justement, partons de cette question de la vie quotidienne très simple. Il n'y a pas de journée où aujourd'hui, la consommation occupant la place qu'elle occupe dans nos sociétés, il n'y a pas de journée où nous ne soyons obligés de sortir plusieurs fois par jour notre porte-monnaie, notre carnet de chèques ou notre carte de crédit. La consommation est devenue tout à fait envahissante dans notre vie quotidienne. Plus grand chose est gratuit, on achète et dès que l'on achète, on consomme. À cet égard, on peut considérer que nous sommes donc de plus en plus dépendants de la consommation. La consommation nous structure et vivre sans consommation est une utopie qui existe. De même qu'il y a quelques groupes extrêmement minoritaires qui veulent vivre sans télévision ou qui veulent vivre sans publicité, il y a également, notamment aux États-Unis, quelques groupes extrêmement minoritaires qui veulent croire à l'utopie d'une société sans consommation. C'est une utopie, on y reviendra si vous voulez. Enfin, n'insistons pas trop là-dessus en introduction. Considérons qu'il va de soi que nous sommes tous très dépendants de la consommation. Et pourtant, et c'est le paradoxe donc par lequel je voudrais commencer cette conférence, et pourtant, si on y réfléchit bien, nous n'avons jamais été autant qu'aujourd'hui dans une situation de liberté par rapport à chaque produit de consommation. Lorsque nous sommes dans une grande surface, prenons cet exemple, nous sommes sollicités par la consommation de toutes parts. Les études ont été faites, il n'est pas nécessaire de faire des études très compliquées pour savoir que nous avons tendance à consommer plus que ce que nous avons prévu de consommer. Donc nous sommes pris dans un mouvement qui nous incite à consommer. Et en même temps, l'hyper-choix, la prolifération du choix, fait qu'aucun produit n'est indispensable. Tout produit a un, si ce n'est plusieurs, parfois un très grand nombre de substituts possibles. Aucun produit n'est là de telle sorte que vous êtes obligé de le prendre. Ce qui vous rend, et ce qui rend au consommateur, évidemment, une liberté extrêmement grande. Et on ne peut, pour comprendre ce paradoxe, ne pas évoquer la question du distributeur. Au cours des 30 ou 40 dernières années, on peut dire que l'acteur qui a émergé et qui aujourd'hui pèse d'un poids extrêmement lourd, c'est le distributeur. Celui que l'on appelait avant le commerçant et que l'on appelle maintenant le distributeur, avant qu'on l'appelle probablement à nouveau le commerçant. On reviendra, si ça vous intéresse, sur cette question sémantique qui n'est pas sans intérêt sur l'histoire que nous avons avec la consommation. Pourquoi, à un moment donné, avons été amenés à appeler le vendeur, le commerçant, un distributeur plutôt qu'un commerçant. En tout état de cause, ce distributeur, ce commerçant, ce grand commerçant, si on veut pour aller vite, a pris une part importante du pouvoir. Et c'est vrai que, étant donné qu'il n'est pas lui-même producteur, il n'a aucun scrupule à éjecter du marché les produits fabriqués par d'autres qui ne trouvent pas immédiatement leurs consommateurs. Le consommateur a donc un pouvoir qui est en même temps un pouvoir largement relayé et organisé et orchestré par le distributeur, d'immenses sélections et sélectivités sur les produits qui sont sur les marchés. Vous ne le savez peut-être pas, mais 70% à peu près, c'est-à-dire les deux tiers des innovations de produits de consommation font des flops, sont retirées de ce qu'on appelle les linéaires des magasins en à peine quelques semaines. Ils n'ont pas réussi à trouver des consommateurs qui les ont achetés, ou bien pour rentrer dans une logique de la grande distribution, ils n'ont pas réussi à trouver assez vite des clients et des consommateurs. Le marché, de ce point de vue, est un marché qui sanctionne extrêmement vite. Et contrairement à ce que l'on peut croire, peut-être assez souvent, on n'arrive pas à imposer un produit de consommation à des consommateurs. En tout cas, si on arrive à l'imposer, c'est au terme d'un processus extrêmement long, extrêmement dialectique, dans lequel le consommateur joue son rôle et finit par accepter ce produit. Il peut ensuite en devenir dépendant, mais c'est une autre histoire. Donc, voilà un premier éclairage sur ce consommateur roi, ce consommateur qui a la capacité de choisir ou de ne pas choisir tel produit. Et dans le fond, si on y réfléchit bien, la société d'il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire avant que nous rentrions dans la société de consommation, une société qui était beaucoup plus faite de petits commerces, de proximité, dans une France beaucoup plus rurale qu'extrêmement urbaine comme aujourd'hui, est une société qui nous rendait beaucoup plus dépendants du commerce que nous avions en face de nous et des produits qui étaient dans ces commerces-là. Nous ne pouvions pas, dans un petit village où un certain nombre de gens vivaient encore, refuser les produits qui étaient proposés parce que les refuser avaient un coût d'opportunité extrêmement élevé puisqu'il fallait aller dans un autre endroit qui n'était pas forcément facilement accessible pour acheter d'autres types de produits. Aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons souvent des moyens de locomotion et la voiture pour aller à l'hypermarché, mais en pratique, nous nous trouvons à ce moment-là devant des dizaines et des dizaines de milliers de références, dont aucune n'est en tant que telle obligatoire. La deuxième réflexion sur ce client roi, enfin qui plaiderait sur ce consommateur roi, est incontestablement Le changement également de rapport culturel qui s'est établi entre le vendeur, le commerçant et le consommateur, avec ce que l'on pourrait dire la fin d'une période où le client se sentait timide devant le commerçant, se sentait peureux devant le choix de la consommation. Si on se reporte à il y a quelques décennies, lorsque ce n'était pas le règne de l'hypermarché, mais que c'était le règne plutôt du commerce organisé de façon classique, c'était un commerce qui était un commerce extrêmement segmenté socialement. Lorsque un client rentrait dans une boutique, il se demandait s'il avait le standing suffisant pour rentrer dans cette boutique. Lorsqu'il rentrait dans cette boutique, il devait discuter avec un commerçant qui était de l'autre côté du comptoir, qui avait un pouvoir extrêmement fort, qui souvent était dans un rapport de supériorité par rapport au client, avec l'impression que le commerçant était le seul à connaître ses produits, à connaître la qualité des produits, et qu'il possédait là un savoir, et que le consommateur était passif par rapport à ce savoir. Aujourd'hui, dans le commerce et dans la consommation, et dans le marketing, il y a une question qui obsède beaucoup de praticiens, c'est la question de la fidélité. Le client est-il fidèle ou au contraire est-il infidèle? Et pour ceux qui sont les moins jeunes parmi nous, si vous vous souvenez de la façon dont on achetait une voiture automobile il y a une trentaine d'années, ou même encore une vingtaine d'années, il y avait une très grande fidélité aux marques, qui était d'ailleurs très familiale. Souvent, une famille, des familles Renault, des familles Peugeot, des familles qui achetaient des Renault n'allaient pas changer de marque pour acheter une Peugeot, et réciproquement. Et si on s'en souvient bien, à cette époque, c'était fondé sur un peu une peur, c'est-à-dire que si on allait changer de marque, si on changeait de marque de voiture automobile, eh bien, on prenait le risque de se retrouver avec un produit de mauvaise qualité. Et les vendeurs, d'ailleurs, très souvent, avaient tendance à déjuger la marque concurrente. Le vendeur Renault disait à son client fidèle « Ah, mais si vous achetez une Peugeot, vous allez voir ce que vous allez voir. » À l'inverse, le vendeur Peugeot disait « Mais si vous achetez une Renault, vous verrez les problèmes et les déboires que vous aurez. » Ceci est maintenant terminé, et on peut même dire que, probablement à cause ou grâce à la diffusion importante de l'élévation des niveaux de scolarité et d'études, aussi par les qualifications professionnelles, c'est un point sur lequel j'insisterai beaucoup tout à l'heure, le rapport de force s'est probablement inversé. Aujourd'hui, lorsqu'un consommateur rentre dans une boutique, parce qu'il en reste encore, ou bien est dans une grande surface de distribution, il ne se sent pas avec un rapport d'infériorité par rapport au vendeur. Et le vendeur a plus besoin de convaincre son client que le client n'est dans une situation à devoir surmonter sa propre peur de ne pas suivre la prescription presque obligatoire du vendeur tel que ça pouvait encore se faire il y a quelques décennies. Bon, voilà pour l'introduction. Venons-en maintenant au cœur du sujet qui est évidemment la compréhension, la modélisation, j'allais dire, de ce qu'est la consommation aujourd'hui dans un pays riche. Je précise tout de suite dans un pays riche. Nous sommes évidemment dans ces pays occidentaux, dans des pays extrêmement riches, et la consommation à cet égard, d'ailleurs, donne souvent une impression de très grand cynisme par rapport aux pays qui ne sont pas des pays riches et qui sont encore largement dans la pénurie, tandis que nous, la consommation s'établit incontestablement dans une logique d'abondance et même de très très grande abondance. Ça ne veut pas dire que dans un pays riche, il n'y a pas des gens pauvres. Mais en tout cas, je vais ici chercher à rendre compte du processus de consommation dans un pays riche, ce qui veut dire que le modèle que je vais vous présenter n'est pas valable, j'allais dire, pour rendre compte de la consommation émergente dans des pays qui sont des pays eux-mêmes émergents, ou en tout cas en situation de niveau de vie nettement inférieur au nôtre. Alors, la consommation dans un pays riche, j'ai l'habitude de dire que c'est une sorte de jeu à quatre acteurs ou à quatre coins, une sorte de jeu à quatre coins. Il y a deux coins qui se situent du côté du consommateur et deux coins qui se situent du côté de l'offreur. Alors, ce que j'appelle l'offreur, c'est, maintenant que j'ai posé cette introduction, c'est quelque chose qui fait masse de l'industriel, de celui qui fabrique le produit, et du distributeur, celui qui le vend. Parce que dans le fond, le consommateur, lorsqu'il est devant le produit, lorsqu'il est prêt à l'acheter, eh bien, il se trouve devant une offre globale. Et dans un premier temps, en tout cas, peu importe les rapports compliqués de dépendance qui peuvent exister entre l'industriel qui fabrique et le distributeur qui vend, il est devant une offre. Donc, deux coins du côté de la demande, du côté du client, du côté du consommateur, et deux coins du côté de l'offre. Les deux coins du côté du client sont les deux coins suivants. Tout d'abord, chaque acte de consommation, même lorsque nous sommes dans un pays extrêmement riche, se doit d'obéir à une logique de besoin. Culturellement, et en particulier dans les sociétés européennes, et en particulier dans la société française, nous avons peut-on mettre ça sur le compte d'un certain sentiment d'autoculpabilité qui continue à exister sur la consommation. Nous n'achetons pas des produits de consommation sans qu'il y ait à la base un besoin. Prenons un exemple extrêmement banal. Plus les sociétés sont riches, plus nous gaspillons des produits alimentaires, c'est-à-dire plus il y a un nombre de produits alimentaires qui partent à la poubelle sans avoir été consommés, parce que les dates limites de vente sont périmées, parce qu'on n'a plus envie de le manger. Mais en tout cas, nous n'achetons pas un produit alimentaire sans avoir, à l'origine de cet achat, un besoin qui est un besoin de nous nourrir. Aucun produit alimentaire n'est acheté sans qu'il y ait quelque part ce besoin-là, qui peut être extrêmement fort, qui peut être beaucoup moins fort à d'autres moments, mais nous ne l'achetons évidemment pas avec le désir intentionnel de ne pas le consommer. Alors là déjà, nous avons un premier sujet et qui renvoie à des débats qui sont assez fréquents sur la consommation. Est-ce que la consommation fabrique des besoins? Est-ce que le marketing fabrique des consommations, des besoins? Est-ce que l'auto-entretien du dispositif de la consommation dans nos sociétés et l'accélération même de ces processus de consommation fabrique des besoins? Je ne le pense pas en ce qui me concerne. Je pense que l'idée que la consommation est un processus qui fabrique artificiellement des besoins est une idée qui est erronée. Je pense que le processus de consommation n'est pas un processus de fabrication de besoins, mais un processus de marchandisation des besoins. Ce qui est très différent. On peut dire que le développement économique et le développement de la société marchande et le développement de la société de consommation est un processus par lequel les besoins sont de plus en plus marchandisés et qu'il y a de plus en plus de besoins qui passent d'une sphère qui peut être une sphère non marchande à une sphère qui devient une sphère marchande. Si on prend un exemple très simple, au cours des 20 ou 25 dernières années, on peut dire de façon évidente que le besoin de loisirs et de vacances est le besoin qui s'est fortement marchandisé. Il y a encore 25 ans, les loisirs et les vacances se faisaient très largement en dehors du marché, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui s'achetait et qui se vendait. Aujourd'hui, c'est devenu banalement un secteur dans lequel les choses s'achètent et se vendent. Les besoins des hommes et des femmes qui vivent en société sont en fait assez limités. Ils consistent à se nourrir, à se vêtir, à se déplacer, à avoir des rapports avec les autres, à se soigner, à disposer d'un endroit de sécurité qui est le logement. Et en fait, le processus de marchandisation est un processus qui, petit à petit, prend ses besoins les uns après les autres, les retire d'une sphère qu'on pourrait appeler, enfin, si on reprend notamment la terminologie d'André Gorz, la sphère de l'autonomie, où ceci se faisait de façon informelle ou gratuite avec ses proches, pour devenir quelque chose qui est organisé socialement et économiquement, donner développement à un marché. C'est ça la marchandisation des besoins. Par contre, si la société de consommation ne fabrique pas des besoins et les marchandises, il est clair que plus les besoins sont marchandisés, plus ils sont sophistiqués. Et plus nous devenons dépendants d'une sophistication de la satisfaction des besoins que le marché organise. Je prends un exemple simple. Prenons le besoin de se déplacer. Vous savez que, par exemple, l'école d'Yves Coppens, qui n'est pas la seule, qui est en débat avec d'autres écoles sur les origines de l'homme, mais l'école d'Yves Coppens fait naître l'homme de la nécessité d'un seul coup de se déplacer, et de se déplacer très vite, lorsque, avec la Rift Valley, d'un seul coup, il y a un bout de territoire qui devient de la savane et il faut courir très vite pour échapper aux prédateurs. À ce moment-là, notre ancêtre, marchant sur quatre pattes, se redresse pour courir plus vite sur deux de ses membres. Ça permet une bascule du cerveau qui permet une croissance, une bascule de la cage crânienne qui permet une croissance du cerveau. Et pour lui, l'origine de l'homme provient de ce processus. On peut dire que donc le besoin de se déplacer est à l'origine de la naissance de l'homme. Ensuite, lorsque l'homme dresse le cheval, lorsque l'homme commence à inventer la roue, il arrive à se déplacer de plus en plus vite et de plus en plus loin. Mais lorsque ce besoin de se déplacer devient quelque chose autour duquel s'organise le marché, eh bien évidemment, ce besoin se sophistique extrêmement. Aujourd'hui, par exemple, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ans, aujourd'hui, on considère que le fait d'aller de Paris à Lille en 1 heure est devenu un besoin. Enfin, nous avons besoin de pouvoir aller à Paris, de Paris à Lille en 1 heure parce que le TGV le rend possible. Mais il est clair qu'il y a 15 années, le TGV n'existant pas, eh bien ce besoin n'était pas en tant que tel reconnu et objectivé. Donc je crois que la société de consommation marchandise des besoins. Et c'est ça son processus de développement, mais ne fabrique pas des besoins. C'est en tout cas le premier coin du côté du consommateur, dans ma modélisation de la consommation. Le deuxième coin, il se situe toujours chez le consommateur, et il est l'imaginaire du consommateur. Aujourd'hui, l'acte de consommation, lorsque nous achetons quelque chose, eh bien, nous avons une motivation, quelque chose qui va faire que nous posons cet acte de vouloir un produit de consommation, qui se fonde aussi sur un imaginaire qui va motiver cet acte de consommation et qui va venir se conjuguer avec le besoin que nous avons de ce produit de consommation. Je prends un exemple simple, encore une fois. Lorsque comme nous disons dans notre jargon de façon un peu archaïque, lorsqu'une ménagère achète dans un supermarché un sac de pommes de terre, eh bien, il y a évidemment un besoin basique qui est de nourrir sa famille, mais il y a aussi une attente imaginaire. Cette attente imaginaire, par exemple, va être la nostalgie du pâté de pommes de terre que faisait sa grand-mère. Ça va être, au contraire, le plaisir anticipé de ses enfants qui aiment les frites et avec ses pommes de terre, elle va faire des frites, enfin, ou de la purée, ou je ne sais quoi. Cet élément imaginaire est constitutif de l'acte d'achat. Pourquoi, d'ailleurs, est-il constitutif de l'acte d'achat ? Mais tout simplement parce que dans une société d'abondance comme la nôtre, s'il n'y a pas cette dimension imaginaire, que certains peuvent appeler le plaisir anticipé, que d'autres peuvent renvoyer à d'autres choses que simplement la notion de plaisir, eh bien le sac de pommes de terre risque de ne pas être pris. Parce que dans le fond, aujourd'hui, comme je disais en introduction, le sac de pommes de terre n'est pas obligatoire. On peut acheter un sac de pommes de terre, ou on peut acheter une pizza surgelée, ou on peut acheter un sac de riz, ou on peut acheter un paquet de pâtes alimentaires pour rester dans l'univers, je dirais, des féculents. Et qu'est-ce qui va faire que l'on va prendre un sac de pommes de terre ou un sac de riz ? Eh bien, à niveau de prix identique, parce qu'évidemment, les prix sont des éléments qui sont très importants, mais pour aller vite au niveau de mon raisonnement, considérons qu'en gros, les prix sont performants dans les deux familles de produits à la fois, donc du côté du riz ou du côté du sac de pommes de terre. Eh bien, ça va être cette dimension imaginaire qui va jouer. Alors, évidemment, dans un pays pauvre, une ménagère, elle est contente d'avoir un sac de pommes de terre. Elle le stocke dans le cellier, elle espère qu'il soit le plus gros possible et qu'il tienne le plus longtemps possible. Mais dans une société riche, cette dimension imaginaire est très forte. Et de l'autre côté, du côté de l'offreur, c'est-à-dire du côté de ceux qui organisent la consommation que l'on achète, il y a aussi deux coins. Le premier coin, c'est la qualité objective du produit, le fait qu'il doit rendre un service qui renvoie bien aux besoins objectivés par le consommateur. Si jamais la pomme de terre est une pomme de terre qui ne tient pas à la cuisson, qui germe très très vite, le produit ne remplit pas sa satisfaction physique, et évidemment on n'en veut pas, c'est facile à comprendre. Et il y a un quatrième coin du côté du produit, enfin deuxième coin du côté du produit, quatrième coin dans ce modèle de la consommation, c'est ce que j'appelle la dimension immatérielle du produit de consommation, c'est-à-dire la façon dont le produit de consommation va être mis en scène, va être fabriqué, va être orchestré pour avoir une dimension immatérielle qui va chercher à rencontrer l'attente imaginaire du consommateur. Si je prends l'exemple de mon sac de pommes de terre, eh bien, le sac de pommes de terre, par exemple, et cet exemple n'est pas pris complètement au hasard, puisque c'est vraiment un produit qui, dans les années récentes, est un produit qui est arrivé à ce terme-là de concrétisation et d'affinement, eh bien, c'est un produit, par exemple, où on va le mettre dans un packaging, comme on dit, donc un emballage plutôt attirant. On va, par exemple, agrafer une recette alimentaire. Alors, quand on agrafe une recette alimentaire sur un sac de pommes de terre, par exemple, eh bien, il est très clair que là, on veut directement aller réveiller l'imaginaire de la consommatrice par rapport à la recette qu'on lui suggère. Et c'est une façon, évidemment, de définir une dimension immatérielle à ce produit. On va multiplier les variétés de pommes de terre, on va inventer de nouvelles variétés de pommes de terre qui vont être plutôt destinées à tel type de recette, avec tel type de qualité subjective dont le produit se pare. On peut dire, si vous voulez, pour aller vite, que tout l'essor de la consommation des 20 dernières années a consisté à épaissir cette dimension immatérielle des produits de consommation en faisant appel aux techniques du marketing, aux techniques du packaging de l'emballage, comme je le disais, aux techniques du design, aux techniques de la publicité. C'est vraiment, comment dire, très important. Et c'est même, si on veut prendre un terme d'économiste et de microéconomiste, c'est même là que se situe la valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est dans la capacité de renforcer cette dimension imaginaire du produit qu'on est capable de le vendre plus cher et donc, du coup, de renforcer la rentabilité du produit et le profit du producteur ou du distributeur sur ce produit. Alors voilà ce modèle du consommateur à quatre coins. Quand l'acte de consommation se passe bien, cela veut dire que ces quatre coins se précipitent en un achat unique dont nous, et évidemment, en tant que consommateurs, nous ne décomposons pas l'acte de consommation en ces quatre séquences. Mais au contraire, lorsque l'acte de consommation se passe mal, et il arrive que l'acte de consommation se passe mal, eh bien, il y a des divergences entre ces quatre notions. Il y a des produits qui ne sont pas choisis parce que justement, les quatre coins ne se rencontrent pas. Et quand je vous ai parlé des dimensions immatérielles du produit de consommation, j'en ai oublié une volontairement parce que c'est celle qui est la dimension générique et dont je dis un mot maintenant, c'est ce qu'on appelle la marque. La marque du produit de consommation, c'est dans le fond la façon d'essayer de définir comme cela une sorte de dimension qui est une dimension immatérielle du produit de consommation qui va essayer de séduire le consommateur dans son imaginaire. Et il y a des fois où ça marche, des fois où ça ne marche pas. Et ça ne marche pas en particulier lorsque un produit de consommation est campé sur une certaine époque et que l'imaginaire du consommateur change. Parce que l'imaginaire du consommateur change. L'imaginaire du consommateur n'est pas toujours le même. Je vais en quelques minutes vous dire un peu quelle a été l'histoire de cet imaginaire de la consommation depuis 50 ans. Puisque je pense que nous sommes dans la société de consommation en France depuis 50 ans. Aux États-Unis, c'est depuis à peu près les années 30, mais en France, c'est depuis le début des années 50. Et en fait, la consommation a toujours rempli une fonction imaginaire, et la demande, l'attente du consommateur a toujours rempli une fonction imaginaire. Face à cela, la consommation s'est toujours organisée, même si on n'en a pas conscience, pour donner une dimension immatérielle à son offre qui rencontre cette dimension imaginaire, du côté de l'attente. Alors, en gros, la société de consommation en France démarre dans les années 50, et on peut dire que pendant 20 ans, dans les décennies 50 et la décennie 60, notre attente par rapport à la consommation, c'est de passer d'une société de pénurie à une société d'abondance. C'est ça ce que l'on demande à la consommation. Et avec une dimension imaginaire qui est très semi-collective, c'est-à-dire que c'est la famille qui accède à l'abondance par la consommation, et dans une logique qui est une logique d'une société très organisée en classe sociale. La consommation respecte une logique de classe sociale. L'ouvrier ne mange pas comme le médecin. Et donc, du coup, le fils d'ouvrier ne mange pas comme le fils de médecin. Et on célèbre collectivement l'ascension sociale des modes de vie que permet la consommation, dans une logique familiale. Lorsque les premiers téléviseurs arrivent dans les familles, sur le téléviseur, on met un napperon, et sur le napperon, on met la photo de la grand-mère. Comme si on montrait là qu'il y avait bien une ascension sociale que rendait possible la consommation. Ça, c'est le premier temps de l'imaginaire et de l'immatériel de la consommation. Et puis, ceci va se casser la figure à la fin des années 60. Nous allons rentrer, à la fin des années 60, dans une période de contestation tous azimuts dans tous les pays riches sur la consommation, qui commence en France, par exemple, en 65 avec le roman de Georges Perec qui s'appelle « Les choses », certains d'entre vous l'ont lu, et qui va aller jusqu'au milieu des années 70 avec les thèses du Club de Rome, mais aussi les travaux et les livres d'Ivan Illich, qui nous expliquent, par exemple, que c'est absurde et contre-productif d'acheter des voitures par rapport au temps qu'on perd dans les embouteillages et au temps qu'on perd à travailler pour pouvoir s'acheter une voiture. Ces thèses anti-consommation, ne vont évidemment pas survivre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va basculer et la contestation va être critiquée à la fin des années 60 parce que l'imaginaire du consommateur est nouveau. L'imaginaire qui émerge, c'est un imaginaire d'aspiration individualiste. Nous ne voulons plus d'une société qui est une société collective et familiale par rapport à la consommation. Nous voulons une société qui reconnaisse à chacun, qui flatte chacun dans une différenciation par rapport aux autres et dans une logique du type individualiste. Lorsque la consommation va comprendre cela, au cours des années 70 et 80, elle va complètement s'organiser autour de la thématique de l'individualisme et même de l'hyper-individualisme. Dans le domaine de la consommation, justement, la prolifération des produits dont je vous parlais tout à l'heure est faite pour flatter un individualisme. Si on arrive dans un hypermarché avec 50 paquets de café différents quand on veut acheter un paquet de café qui vous est proposé, c'est un hyper choix censé flatter le fait que vous pouvez acheter un paquet de café qui n'est pas celui que votre voisin achète. Donc, dans le domaine de l'offre, on va avoir l'hyperprolifération des produits qui va avoir une correspondance du côté de la demande, c'est-à-dire du côté du consommateur, avec ce qu'on va appeler les techniques de segmentation. Il n'y aura que ce mot-là à la bouche. On va vouloir segmenter les consommateurs, c'est-à-dire les séparer, justement fabriquer des groupes de consommateurs qui ne consomment pas la même chose ou pas tout à fait la même chose et qu'on va flatter dans leurs différences. La consommation va finir, ces logiques de segmentation dans le domaine de la consommation vont finir par, à la fin des années 80, à partir du début des années 90, par ce mot qu'auront tous les hommes à la bouche, qui est de parler de niche de consommateurs. On va faire tellement des petits groupes de consommateurs qu'on va parler de niche de consommateurs, ce qui est atroce, puisqu'on met des chiens dans des niches, mais mettre des consommateurs dans des niches montre bien la façon dont on souhaite, par des niches de consommateurs, arriver effectivement à définir des modèles de consommation et des produits de consommation qui, dans l'idéal, sont destinés à ce groupe et à seulement à ce groupe. Et donc, on est arrivé jusqu'à des niches de consommateurs, c'est-à-dire le fait de mettre ces consommateurs dans des niches. Parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, même si je crois que le consommateur, aujourd'hui, est dans une large mesure maître de refuser les produits qui sont proposés, il n'empêche qu'en face, la logique du marketing est plutôt d'essayer de faire en sorte de lui fabriquer des produits de telle sorte qu'il s'y retrouve et qu'il se sente obligé quasiment de les acheter. Il y a une sorte comme ça de course contre la montre entre un consommateur qui se défend et évidemment un marketing qui essaye de l'enfermer dans des modèles de consommation dans lesquels il soit en définitive captif de ce qu'on peut organiser pour lui. Alors la consommation individualiste va très très bien marcher au cours des années 70 et 80 et vous voyez que l'imaginaire d'individualisme va rencontrer un immatériel des produits de consommation qui va se calquer sur l'individualisme. Par exemple, la voiture ne sera plus familiale, mais la voiture sera la voiture de la femme, la deuxième voiture sera tout ce que l'on a vu apparaître au cours des années 80 sur l'idée de, par exemple, une 205 GTI à la fin des années 80 agressive comme prothèse de fantasme de toute puissance d'un consommateur plutôt macho, ou au contraire la 205 sera Roland Garros pour des femmes chics qui ont d'autres types d'imaginaire que celui de jouer à faire une course dans la ville avec une voiture très nerveuse. C'est tout ceci qui va être à l'œuvre au cours des années 80. Et puis au cours des années 90, à nouveau changement de décor, et là d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'à ce moment-là le consommateur reprend le pouvoir. Le modèle de consommation des années 80 est en partie, mais pour la partie où c'est le cas, violemment rejeté par le consommateur des années 90. Les années 90 sont des années qui sont des années où on n'est plus autant sûr de notre individualisme et de la force de notre individualisme, où on est plutôt tétanisé par les peurs justement que cet individualisme a fait naître. Nous sommes dans une société qui est une société d'inquiétude, une société qui est la société du chômage, la société de la mondialisation. Nous ne sommes plus la France, mais nous ne sommes pas déjà l'Europe. Une société du sida, une société de l'insécurité. Et toute la consommation qui était fondée sur un imaginaire du consommateur qui était d'être flatté dans sa surpuissance d'hyper-individu tourne un peu en flop pour aller vite, si vous voulez. Une femme qui s'est fait engueuler le matin par son patron et qui fait les courses le soir dans l'hypermarché et dont l'immatériel de la consommation consistait un peu à dire « oublie tes soucis, ma cocotte, en achetant
ce produit de plaisir qui te tend les bras en tête de gondole de l'hypermarché, regarde ce vêtement que tu vas prendre et qui va te faire oublier que ton patron est un imbécile qui t'a engueulé, n'est plus quelque chose qui va marcher au cours des années 90, parce que la fille qui s'est fait engueuler par son patron au cours des années 90, à 11h, elle a appris que dans l'entreprise, il y avait une liste de licenciements qui circulait, et puis à 16h, elle a appris que sa gamine avait 39 de fièvre et que le lendemain, elle ne pourrait plus la mettre à la crèche. Elle sait bien que le lendemain, elle peut utiliser des jours pour enfants malades, mais elle se demande si c'est pertinent de prendre des jours pour enfants malades alors qu'il y a une liste qui court dans son entreprise. Enfin, vous me suivez. Et quand le message un peu de la consommation consiste à lui dire « oublie tes soucis en te faisant plaisir avec ce produit de consommation », eh ben, ça ne marche plus tout à fait de la même façon. Ou pour prendre un autre exemple, et d'ailleurs c'est un cas précis que je vais donner en une seconde, lorsque un couple de cadres est angoissé par le chômage et qu'au cours des années 80, on lui dit ben, « va oublier tes soucis en prenant une semaine au club » où là, tout te sera offert dans un univers complètement différent et il sera toujours temps de retrouver tes soucis quand tu reviendras une semaine après, eh bien, ce modèle ne marche plus. Parce qu'en gros, le couple de cadres se demande si, lorsque les deux risquent d'être au chômage, il n'est pas préférable de laisser l'argent qu'on allait consacrer à cette semaine au club sur son compte bancaire, voire d'acheter des SICAV ou des fonds communs de placement qu'on aura quand même pour faire face le jour où, effectivement, le chômage sera arrivé. Et c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui fera que si on voulait prendre, là j'ai pas le temps de le faire, mais si on voulait prendre un exemple en vraie grandeur de crise de l'immatériel de la consommation, l'exemple du Club Méditerranée est un très bon exemple. Le Club Méditerranée est un produit qui était complètement fabriqué sur un immatériel de consommation qui était celui des années 80 et qui se retrouve en porte-à-faux au cours des années 90, où dans ces années d'inquiétude va se développer une nouvelle attente imaginaire des consommateurs et une nouvelle réponse faite par les entreprises de consommation, que j'ai dénommée du mot de rassurance. Au cours des années 90, les produits de consommation deviennent des produits qui se veulent rassurants. Alors, les thèmes de la rassurance, c'est quoi? C'est par exemple le retour du terroir. Depuis 7 ou 8 ans, on n'achète plus que des produits alimentaires du terroir. C'est le retour de la famille. Quelque chose qui était rejeté dans le modèle de consommation des années 80. Regardez la voiture, où les voitures sont toutes familiales. Enfin, ça a commencé avec la success story des monospaces au début des années 90. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez que le retour des voitures familiales, des breaks, date du milieu des années 90. Les bétaillères des années 60, celles qui avaient disparu au cours des années 80, parce qu'un concessionnaire automobile n'allait pas mettre un break dans sa concession, ça faisait fuir le client. Même quand on avait 3 enfants au cours des années 80, on les serrait sur la banquette arrière de la berline, mais on n'achetait pas une commerciale qui s'appelait commerciale et non plus familiale. Et puis les breaks sont revenus au milieu des années 90. C'est très intéressant d'ailleurs si on regarde, enfin moi je le fais professionnellement, vous n'avez pas le temps de le faire, mais quand on regarde les messages publicitaires, on n'ose pas au début réintroduire 3 enfants. Donc on utilise le gros chien avec les 2 enfants pour justifier le break. Et en fait, les 3 enfants vont arriver dans les pubs à partir de 96-97. Et puis comme la famille nombreuse, ça fait ringard, c'est le retour de la famille, mais la famille nombreuse, ça fait ringard. En fait, la famille nombreuse qui va s'imposer dans une certaine modernité, c'est la famille recomposée. Et non pas la famille, donc un monsieur et une dame qui ont eu chacun 2 enfants et qui se marient en seconde noce, ça fait une famille avec 4 enfants. Et c'est là-dessus, y compris dans la publicité pour les produits de consommation, qu'on va remettre la famille comme lieu de sécurisation évident. Mais il y a plein d'autres thèmes de rassurance. Il y a un thème, par exemple, comme la santé, qui va devenir un thème très fort de rassurance. Les 2 PME de l'agroalimentaire que sont Nestlé et Danone lancent tous les 2 au milieu des années 90 des yaourts qui sont censés renforcer les défenses immunitaires de l'organisme. Je ne sais pas si au niveau du contenu immatériel, vous voyez ce que ça veut dire. Ce sont des yaourts qui s'appellent LC1 d'un côté et Actimel de l'autre, pour lesquels il y a beaucoup de publicité. Et dans des années sida, vous voyez bien ce que ça veut dire. Alors vous voyez bien d'ailleurs sur cet exemple tout à fait la logique imaginaire, la peur du sida dans une société et la logique immatérielle du produit de consommation, essayer de répondre à cette peur en développant le yaourt de cette façon-là. Mais il y a 10 ans, un nouveau yaourt, on l'appelait la laitière en goguette ou la laitière en folie, on ne l'appelait pas LC1, qui est un mot qui évoque, enfin qui est plutôt une formule, qui évoque le tableau de composition chimique des éléments qu'on apprend en classe de seconde et qu'on oublie au bout de 3 mois. Mais c'est ça qui est la fonction immatérielle de la consommation en l'occurrence. Alors, tenez encore un dernier exemple pour vous montrer ce que ça veut dire. Probablement que le produit agroalimentaire des années 90 qui évoque le plus ce besoin de rassurance, c'est l'huile d'olive. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est assez fascinant. L'huile d'olive a fini par franchir la barre historique qui la cantonnait aux régions du Sud. Entre la France du beurre et la France de l'huile, l'huile d'olive remonte. Et c'est rigolo, mais ça vaut le coup quand même d'être compté. Il y a 10 ans, on assaisonnait nos salades de tomates avec des vinaigrettes allégées, c'est-à-dire 90% de flotte, 10% d'épaississant et puis une goutte de graisse. Aujourd'hui, on assaisonne la salade de tomates avec un filet d'huile d'olive. Il faut savoir, vous ne me croirez peut-être pas, mais il faut savoir que l'huile d'olive est un produit qui a émergé dans les marchés au cours des années 90 sans publicité, est choisi par le consommateur, plébiscité par le consommateur, dans cet ensemble, en gros, de terroirs et de préoccupations de santé. Ensuite, la publicité, évidemment, est intervenue pour relayer le succès des produits. Mais il y a 10 ans, les industriels ne misaient pas sur l'huile d'olive, ils misaient sur la vinaigrette allégée. Évidemment, et l'huile d'olive est un produit qui, dans sa dimension immatérielle, évoque toutes les thématiques de la rassurance, que ce soit la santé, la convivialité, le retour au passé, hein, les produits du passé, même, je dirais, dans l'ensemble des champs de l'imaginaire le plus structuré, le plus fort, celui de la symbolique religieuse, hein, l'huile d'olive, c'est clair. Donc c'est un produit qui a extrêmement bien marché et qui continue à bien marcher. Alors, voilà, je m'arrête pour ces 50 dernières années, puisque nous rentrons maintenant dans les années 2000, et je vais dire un mot dans les années 2000 de ce que je crois être le nouveau paradigme de l'imaginaire du consommateur et de l'immatériel de la consommation, c'est ce que j'appelle le consommateur entrepreneur. Et alors, c'est la dernière partie de ma conférence, pour que je ne dépasse pas les 50 minutes. C'est, oui, mais le consommateur, il est roi, mais c'est peut-être un roi qui est nu. Alors, nous rentrons maintenant dans un nouveau paradigme de la consommation, celui du consommateur-entrepreneur, qui n'est plus celui de la rassurance, qui est assez différent, et qui est celui de se dire « la société a changé et la consommation n'est plus une sorte de contrepartie de plaisir parce que j'ai gagné des sous au travail, ou une façon de célébrer ma toute-puissance en tant qu'individu, ou bien encore une façon de me rassurer par rapport à des peurs qui sont celles de la société ». La consommation devient une façon de m'équiper face au monde moderne et face aux défis du monde moderne. Le défi d'une société donc qui repart de l'avant, mais qui repart de l'avant avec beaucoup moins de croyance dans les systèmes collectifs pour organiser notre devenir, et beaucoup plus de renvoi à la responsabilité individuelle, mais pas dans une logique de jouissance individualiste, mais dans une logique de construction de soi-même. Et de ce point de vue, donc demain, Alain Touraine qui parlera du travail, je ne sais pas s'il évoquera ce point, mais le changement, le bouleversement du rapport au travail est là et explique cela. Alors, les produits de consommation du consommateur-entrepreneur, les produits caractéristiques les plus typiques, c'est par exemple le téléphone portable, c'est l'ordinateur domestique, qui sont les produits qui tirent la consommation d'aujourd'hui. Regardez le téléphone portable, qu'est-ce que c'est que le téléphone portable ? C'est un produit qui est un produit de mixité vie privée, vie professionnelle. Ce qui est complètement nouveau, l'arrivée de ces produits de mixité de vie privée, de professionnelle. Jusqu'à présent, la consommation avait un champ qui était celui de la vie privée qui ne se mélangeait pas avec le champ de la vie professionnelle. On ne voulait pas retrouver chez soi, dans l'univers de la consommation, ce que l'on avait au bureau ou à l'usine. Et bien maintenant, c'est l'inverse qui se passe. Le téléphone portable, c'est un produit par lequel votre client, votre fournisseur, votre patron, votre collègue peut vous appeler alors que vous êtes à la plage ou à la pêche, tandis qu'à l'inverse, votre conjoint ou votre gamin peuvent vous appeler alors que vous êtes en plein travail. Et c'est ce qui fait, comment dire, le mélange dans ce produit qui est très caractéristique. L'ordinateur domestique, c'est pareil. Les statistiques sont très claires. On sait que les gens qui achètent un ordinateur domestique ont tous implicitement, à part peut-être les retraités, et encore d'ailleurs, parce que les retraités souvent achètent en se disant aussi que ça servira à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mais la plupart des gens qui achètent un ordinateur domestique ont l'idée quelque part que c'est quelque chose qui intervient dans une logique qui n'est pas que de la vie privée, qui est aussi de la vie professionnelle. Soit une façon de se former pour un nouveau travail, soit une façon de continuer chez soi un travail qu'on a commencé au bureau, soit une façon donc de préparer ses enfants à un univers dans lequel ils auront besoin de ça pour leur travail. Ceci donc est complètement nouveau. cette espèce de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle qui est remise en cause est quelque chose qui est très important pour la consommation. Prenons un exemple, dernier exemple. Regardez le dimanche soir à la télévision, on ne zappe plus entre le film de TF1 et le film de France 2. On zappe entre le film de TF1 et le film de France 2 et Capital sur M6. Quand on regarde Capital sur M6, qu'est-ce qu'on fait ? On n'est plus dans quelque chose qui est du loisir pur. On n'est pas non plus dans quelque chose qui est une conférence du CNAM retransmise sur Télé-Sorbonne ou sur Télé-CNAM. On est sur une production hybride qui mélange de la distraction et une sorte d'acquisition paraprofessionnelle ou pré-professionnelle qui sera utile. On pense déjà au travail. Il y a 10 ans, le dimanche soir, c'était le dernier moment du week-end, avant que l'on reprenne le travail le lundi matin, avant que l'on réembauche, comme on dit le lundi matin, il était hors de question qu'on entende parler du travail. D'ailleurs, le dimanche soir était un temps qui était grillé à cause de ça. Aujourd'hui, le dimanche soir, à la télévision, sur une chaîne tout de même de grande écoute, je ne parle pas des programmes satellisés ou sur le câble, vient rentrer quelque chose qui est à la fois une façon de préparer le travail, même si l'émission Capital ne porte pas sur votre propre secteur professionnel, ou bien si vous êtes consommateur, qui vient vous décoder les mécanismes de la consommation et vous donner des armes pour passer de l'autre côté du comptoir, pour être capable d'être complice ou au contraire d'être libre, non complice, en rejet par rapport aux techniques du marketing qui se développent et qui permettent de sophistiquer de plus en plus les produits et les services. Alors, pourquoi le client et pourquoi le consommateur peut-il être nu par rapport à cela ? Eh bien, et c'est ma conclusion, 2 points. Le premier point, parce que nous rentrons dans une nouvelle étape de la consommation, qui est une étape de la consommation extrêmement personnalisée. L'étape de la cible, de la niche dont je parlais tout à l'heure, est même déjà dépassée. Nous rentrons dans une logique de consommation qui est une logique de consommation totalement sur mesure. Tous les travaux prospectifs dans la consommation sont fondés là-dessus. On vend des choses sur mesure, les techniques d'achat sur Internet, les techniques de marketing complètement ciblées, les techniques de carte de fidélité, ce qu'on appelle les mégabases de données qui font que tous les distributeurs n'ont qu'un seul désir aujourd'hui, c'est de mettre en fiche tous vos achats pour essayer de savoir ce que vous êtes, ce que vous achetez et vous proposer des choses uniquement pour vous. C'est pour cela que dans tous les commerces, on vous propose 3,50 francs de réduction en contrepartie du fait qu'on vous donne une carte sur laquelle vous mettez votre nom et en contrepartie tout ce que vous achetez est enregistré. Vers quoi cela va-t-il ? Cela peut très bien aller vers quelque chose qui est une remise en cause du vivre ensemble qu'est la consommation. La société de consommation des 50 dernières années est une société qui a quand même eu un idéal de démocratisation. L'hypermarché est un endroit où les consommateurs de tout revenu, de toute classe sociale se rencontrent, se croisent, voient des produits qui sont identiques. Nous allons probablement vers une nouvelle étape de la consommation où ceci n'est plus forcément obligatoire. Souvent, on me dit, par exemple, dans les questions, on me dit, mais est-ce que ce n'est pas une aliénation extraordinaire de la consommation que le fait que dans des banlieues, des enfants en situation familiale difficile, avec des revenus faibles, se croient obligés de porter des chaussures Nike ou Reebok ou Adidas qui valent 600 balles. N'est-ce pas le comble de l'aliénation de la consommation que cela ? Et je leur dis souvent à ces gens, moi je considère qu'il y a pire que cela. Il y a pire que cela, et le pire que cela, ce serait le jour où les Grolls Adidas à 600 balles seraient réservés aux enfants des catégories aisées, et où dans les catégories plus démunies ou dans les quartiers difficiles, on aurait intériorisé et intégré qu'on peut aussi bien se promener et courir avec des tennis achetés à 70 francs chez le hard discounter au pied de la cité. Donc voilà un risque très fort. Je vous signale qu'aux États-Unis, on est déjà en train d'expérimenter, et ça marche, des journaux par abonnement qui sont personnalisés dans l'éditorial que l'on vous donne est également personnalisé dans les publicités. Donc vous pouvez recevoir votre journal de télévision, par exemple, par la poste, comme votre voisin le reçoit, mais vous n'aurez pas les mêmes publicités. Je considère que le fait que la publicité soit quelque chose qui va au-delà de sa cible, c'est-à-dire quelque chose qui arrose large, c'est quelque chose qui nous permet de la décoder. C'est quelque chose qui nous permet d'être critique à l'égard de cette publicité. Il n'y a rien de pire que la publicité qui vise juste et qui en même temps n'envoie pas son message. au-delà des gens qu'elle cherche à séduire. Et dans ce cadre de la presse magazine aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Même de façon extrêmement segmentée. Par exemple, le magazine Fortune, qui est quand même pas réservé aux plus pauvres, a fait des publicités où, selon les tranches de fortune, on ne propose pas les mêmes voitures automobiles dans la publicité que l'on envoie aux gens qui sont abonnés. Enfin, dernier élément, dernière menace qui fait que le consommateur peut se retrouver un roi nu par rapport à toute cette évolution de la consommation, le point que j'évoquais tout à l'heure, la marchandisation de la vie. La marchandisation de la vie était quelque chose qui est une violence, quelque chose dont d'ailleurs on se rend compte que chaque génération va plus loin que la précédente. Aujourd'hui, les gens de 50 ans considèrent comme normal qu'on marchandise le fait d'aider les personnes âgées dépendantes. Ça va devenir un secteur de marchandisation considérable, un peu atténué dans sa violence par le fait que c'est des associations, que c'est souvent sous contrôle des mairies ou des choses comme ça que ça se fait. Mais néanmoins, c'est un secteur de développement économique très fort. Les gens de 75 ans ou 80 ans aujourd'hui considèrent que dans le temps, lorsque c'était le voisinage, la famille qui s'occupait bénévolement, de façon gratuite et non marchande, des personnes âgées dépendantes, c'était quand même mieux, et que cette marchandisation est aujourd'hui un élément de violence, mais que pourtant la génération des 50 ans accepte, tandis qu'elle dénonce le fait que ses enfants et ses grands adolescents sont en train de marchandiser autre chose qui est la promenade dans les espaces imaginaires, la promenade dans les espaces virtuels. Un des éléments de support des jeux vidéo, de l'informatique, des réseaux, était quelque chose qui existait bien avant qu'on en parle, mais qui était quelque chose qui ne donnait pas lieu à une marchandisation. Dans le fond, lorsque l'homme rêve au milieu de son sommeil, ou lorsque, il y a 40 ans, on achetait, ou 30 ans, on achetait un livre de poche pour rêver avec un roman, on était déjà dans les espaces imaginaires et virtuels, mais ce n'était pas marchandisé comme ça le devient aujourd'hui, lorsqu'on s'équipe avec des produits qui valent plusieurs milliers de francs pour arriver à cela. Jusqu'où cette marchandisation ? Jusqu'à quel moment cette marchandisation débouche-t-elle sur quelque chose qui finit par être le règne absolu de la règle de l'hétéronomie par rapport au fait tout de même que le consommateur reste maître de ce qu'il vit. Je cite simplement deux éléments pour conclure, deux secteurs fortement à surveiller, la spiritualité et la sexualité. Voilà typiquement deux fonctions, deux besoins de l'homme sur lesquels on peut se demander aujourd'hui si le curseur est un curseur qui va vers la marchandisation ou pas. La spiritualité, il est clair qu'aux États-Unis, c'est déjà un élément très, très fortement marchandisé. Il est clair en même temps que l'Europe et la France, mais l'Europe en général, fait de la résistance par rapport à cette marchandisation. Irons-nous vers une marchandisation de ce secteur ou au contraire, est-ce que cette résistance sera durable ? Deuxième élément, la sexualité. Est-ce qu'on ira ou pas vers une société de consommation qui marchandise cela ? Aujourd'hui, bien souvent, on a tendance à dire que c'est déjà le cas. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, la marchandisation de la sexualité se fait beaucoup plus par l'instrumentalisation de la sexualité dans le message commercial qu'elle ne se fait dans l'organisation en tant que telle d'un commerce des produits, directement les sexualités, mis à part les cassettes pornographiques et autres accessoires de ce type, mais qui représentent un poids économique extrêmement faible en réalité. Les sociétés, de ce point de vue, résistent. Et on peut dire qu'à l'inverse, lorsqu'on voit des pays comme les pays dans lesquels le tourisme sexuel existe encore ou dans lesquels il y a des abus sexuels, on se rend compte que c'est plutôt des pays qui ont cette logique-là avec des niveaux de vie et des pauvretés très grandes. Et on peut penser que lorsque ces pays seront dans un processus de progrès et de développement beaucoup plus fort, ils mettront une barrière et ils iront en arrière par rapport à cette logique de marchandisation de la sexualité. Mais enfin, ce sont des questions par lesquelles je termine et qu'il faut évidemment se poser sur ces défis nouveaux, ces défis à venir de la consommation, vers une personnalisation excessive qui fait perdre le lien social du vivre ensemble qu'est la consommation, et par cette interrogation qui n'est pas une interrogation métaphysique, qui est une interrogation très concrète et très pratique sur la question de savoir jusqu'où ira cette marchandisation et quelles sont les sphères de la vie des hommes et des femmes qu'il faut décider collectivement d'interdire à la sphère de la marchandisation. Merci.
Tout de suite. Monsieur, question ici devant vous. Ici. Allez-y.
Votre conférence a éveillé en moi plusieurs questions. Vous dites d'abord que les produits doivent obligatoirement répondre à un besoin. Je me demande à quel besoin répondent les cigarettes ou le chewing-gum, par exemple. Vous dites par ailleurs que on va aller vers des productions de produits de plus en plus sur mesure. Je prends comme exemple les vêtements. Quand j'étais jeune, et qu'on avait un peu d'argent, on s'habillait sur mesure. Quand j'ai été un peu moins jeune, on s'habillait en mesure industrielle. Aujourd'hui, on ne s'habille plus du tout, ni en mesure, ni en mesure industrielle. On s'habille en prêt-à-porter. La troisième chose, je me demande aussi si l'évolution de la consommation n'est pas due à une évolution une espèce de tectonique des plaques entre les producteurs, les distributeurs et le consommateur. En fait, la consommation a beaucoup changé il y a 30 ans quand les hypermarchés ont démarré, d'abord à Marseille, à Nice, avec Cap 2000, si je me souviens bien, ou Cap 3000. Ça a complètement modifié la consommation et les rapports du consommateur au produit. Avant, effectivement,
d'abréger un peu parce qu'il y a beaucoup de questions.
Tout à fait. Avant, le commerçant était un prescripteur. Ensuite, c'est le produit qui est devenu son propre prescripteur. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle révolution avec le net. Et effectivement, le net implique l'ordinateur, le téléphone mobile, etc., etc.
Alors, je pense qu'il faut essayer d'être rapide. Hein. Alors, je vais vous rappeler, je vais répondre sur les cigarettes, pas sur le chewing-gum. Sur les cigarettes, bah si, parce que vous voyez bien que des produits psychotropes, il y en a dans toutes les sociétés, même lorsqu'elles ne sont pas des sociétés de consommation. Donc la cigarette, pour moi, est un produit psychotrope qui répond à un besoin. Peut-être que peut-être qu'un jour, une société humaine n'aura plus besoin de produits psychotropes, mais c'est clair que ces produits psychotropes ont une fonction qu'on peut donner pour aller vite comme étant une fonction, je ne sais pas très bien, moi, anti-angoisse, anti-stress, enfin tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est clair qu'il y a, un besoin à l'origine de cela. La logique du sur-mesure, les produits sur-mesure, vous avez complètement raison de parler de cette évolution. Mais cette évolution, justement, est une évolution vers laquelle on va maintenant dans l'autre sens. En fait, la mesure dans le domaine du vêtement a été abandonnée parce qu'elle était incompatible avec le processus industriel qui avait besoin de fabriquer des séries. Et aujourd'hui, il y a un paradigme technologique qui est en train d'arriver qui consiste à se dire, n'existe-t-il pas des technologies, notamment de commandes numériques, qui permettent de faire du sur-mesure sans revenir à l'époque du tailleur arménien. Alors, Lewis, par exemple, fait des jeans sur-mesure. Il y a des fabrications de chaussures sur-mesure avec des prises d'écran tactile sur ordinateur. Je ne développe pas. Les lunettes que j'ai sur le nez actuellement ont été faites sur-mesure avec des logiciels qu'ont inventé des opticiens japonais. Donc, il y a tout un tas d'idées de retour du sur-mesure. Dans le domaine du vêtement, le problème, c'est qu'il faut élargir le champ du sur-mesure. Vous parlez du sur-mesure en termes de taille, il y a aussi le sur-mesure en termes de coloris, en termes de choix. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose auquel beaucoup d'industriels et beaucoup de gens réfléchissent. Sur la question du triangle producteur-distributeur-consommateur, juste en deux mots, alors Cap 3000, c'est le premier centre commercial, mais le premier supermarché, c'est Leclerc à Landerneau, et le premier hypermarché, c'est Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois dans les années 60. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que lorsque Leclerc ouvre son premier supermarché à Landerneau, et c'est lui qui va faire arrêter l'utilisation du mot commerçant pour voir apparaître le mot distributeur, eh bien, en fait, il y a l'idée que le commerçant est un voleur, et il y a l'idée qu'on est aujourd'hui dans une société qui est une société qui devient d'abondance, où en faisant des prix le plus bas possible, et c'est la naissance du discount, on va pouvoir distribuer les produits. Il y a un imaginaire à l'époque qui est un imaginaire de type religieux, de type catholique d'ailleurs, qui est la multiplication des pains. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, je vous signale, c'est quelque chose qui a été peu étudié, mais c'est pas un hasard si les familles qui inventent la distribution en France sont quasiment toutes des familles de culture religieuse catholique pratiquante. C'est vrai pour Leclerc, c'est vrai pour Promodès, c'est vrai pour Auchan, c'est vrai pour tout cela. Et il y a l'idée, en gros, on va venir multiplier les pains, multiplier les produits de consommation, ce que, un peu plus tard, les représentants des consommateurs dénonceront
au contraire comme la pire des aliénations, puisque le produit n'est pas gratuit. Il faut bien, lorsqu'on l'a mis dans son cabas et lorsqu'on passe à la caisse, le payer à son tour. Mais à mon avis, le vrai changement, il est là. Il est dans cette apparition d'une sorte de paradigme de l'abondance et de la distribution en opposition à la logique de l'achat individuel, un sou est un sou, et d'une idée d'un commerçant qui, d'ailleurs, dans toute la littérature du XIXe siècle, avait toujours été présenté comme un voleur, celui qui faisait trop de commissions, celui qui multipliait par je ne sais combien le prix des produits entre le moment où on l'achetait. Ah bah, relisez Balzac, relisez beaucoup, vous verrez. Les commerçants ont toujours été considérés comme des voleurs dans notre pays.
Bon, monsieur.
Oui. Vous n'avez pas du tout parlé de la défense des consommateurs, mais peut-être par manque de temps. Quel est le pouvoir du consommateur roi, par exemple, par rapport au poulet à la dioxine, au fromage à l'hélistéria? Que peut faire ce consommateur? Et quels sont les risques courus par les producteurs et les distributeurs? Merci.
Alors, vous avez raison de poser ce point. C'est vrai parce que je n'ai pas eu le temps, je n'en ai pas parlé. C'est vrai aussi que je n'en ai pas parlé parce qu'il se trouve que je trouve qu'aujourd'hui, les associations de consommateurs sont un peu en porte-à-faux par rapport à cette défense du consommateur, mais je n'ai pas le temps de développer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le consommateur est à défendre. Il est à défendre. Et le consommateur est myope par rapport à cette question de la défense de ses droits. Il est convaincu qu'il n'a pas besoin d'être défendu jusqu'au jour où il a un pépin et où, à ce moment-là, il se demande « Mais comment se fait-il que je ne sois pas défendu ?» Alors, ce que je peux simplement dire, c'est que la défense du consommateur, ce n'est pas que la responsabilité des associations, c'est de la responsabilité de la vigilance de chaque consommateur et c'est aussi de la responsabilité des pouvoirs publics. Et puisque vous me donnez l'occasion, juste un mot, je ne comprends pas. Prenons l'exemple de la vache britannique. Prenons l'exemple des OGM. L'exemple des OGM est le meilleur cas de figure. Je ne comprends pas les pouvoirs publics qui disent que défendre le consommateur, c'est forcer que l'on mette sur l'emballage que le produit est fait avec des OGM. Qu'est-ce que cela veut dire ? Où les OGM sont dangereux et il ne faut pas qu'il y ait de produits de consommation à base d'OGM, où les OGM ne sont pas dangereux, il faut certes l'inscrire, mais dans ces cas-là, il est normal qu'il y ait des produits. Mais dire les OGM, comme on ne sait pas bien, on va l'écrire sur l'emballage et on renvoie au consommateur qui lui-même n'a pas la connaissance pour arbitrer, me semble typiquement aujourd'hui, et je peux vous garantir, j'en ai parlé avec beaucoup de responsables, beaucoup de ministres sur ce point, tout le monde est convaincu qu'aujourd'hui, c'est le summum de ce qu'on peut faire que de dire on a écrit sur l'emballage, alors en gros, en petit ou peu importe, mais on a écrit sur l'emballage fait à base d'OGM. Ben oui, mais et même à supposer que moi je sois contre, s'il y a 50% des gens qui sont pour et qui consomment des OGM, et si les OGM, par hasard, provoquent des catastrophes écologiques, c'est pas parce qu'il y a 50% qui n'auront pas consommé que ça empêchera la catastrophe d'arriver par les 50% qui n'auront consommé. Donc voilà un exemple typique où je crois aux besoins de l'État dans sa régulation, y compris par rapport aux consommateurs, et où ce renvoi fait par l'État lui-même et par le politique lui-même vers l'individu consommateur me semble quelque chose de flatteur. Et vous voyez, de faussement erroné. Et ce qui est assez fascinant, c'est que là, c'est le politique et le pouvoir politique qui renvoie plus que ne le fait le marché à l'idée d'une toute puissance supposée du consommateur.
Monsieur.
Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pensiez pas que l'offreur crée des besoins artificiellement. Mais il me semble pourtant qu'on a assisté à des situations de ce type, notamment à travers la clientèle enfantine, qui est une proie facile parce que les parents sont eux-mêmes une proie facile. Et je pense en particulier à la manière dont a été imposée la célébration d'Halloween, l'an dernier, ou encore à la campagne Pokémon qui sévit actuellement en France. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une violence faite aux consommateurs, et est-ce que, si oui, il y a un moyen de s'en prémunir ?
Bon, je sais bien que quand je dis cela, je provoque toujours des réactions, et je le dis volontairement de façon un peu carrée, parce que je sais bien que l'idée de dire que ce n'est pas, on ne crée pas des besoins, mais qu'on les marchandise, et en même temps, dans ma réflexion conceptuelle, c'est capital. Et je crois effectivement qu'on ne crée pas de besoins. Et dans l'exemple que vous avez cité, alors ils sont extraordinaires, parce que justement, c'est des exemples, à mon avis, qui s'inversent très bien. Sur Halloween, on est typiquement devant quelque chose qui, d'abord, aujourd'hui en France, n'a pas encore pris, contrairement à ce qu'on dit. Le chiffre d'affaires d'Halloween est à peu près 5 fois inférieur au chiffre d'affaires des fleuristes pour fleurir les tombes du 1er novembre. Hein. Simplement dans les, parce que c'est le même jour, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est, Halloween, c'est le même jour que la Toussaint. Bon. Il faut pas, alors, on peut renvoyer le débat vers autre chose, vers les médias. Pourquoi les médias parlent-ils à longueur de journée d'Halloween quand on arrive? Je parle en France, je ne parle pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, Halloween est un vrai... Mais pourquoi est-ce qu'en France, on parle d'Halloween toute la journée comme si... effectivement, on allait voir des gamins qui vont sonner aux portes, qui vont être déguisés, comment dire, alors que ce n'est pas vrai. Regardez dans les rues, vous en voyez quelques-uns, mais vous ne voyez pas tout le monde qui fête Halloween. Donc là, il y a une sorte de logique médiatique qui est très forte. Et en réalité, moi, je crois que si Halloween s'impose, ce sera beaucoup plus par une logique de type médiatique que par une logique de type marketing, parce qu'il n'y a pas vraiment tant de ça d'opérateurs qui se sont mis sur le sujet. Et deuxièmement, par quand même une position très très claire des parents. Je veux dire, enfin bon, Halloween, si jamais ça marche, c'est les parents qui trouvent très drôle de déguiser leurs enfants le jour d'Halloween et qui trouvent que c'est plus rigolo le 1er novembre et le 31 octobre de fêter Halloween de cette façon-là que d'aller sur la tombe de la grand-mère. Mais c'est comme ça. C'est pas par le biais du marketing que ça se passe. Sur l'autre question qui est les jeux Pokémon, alors, oui, alors là, on est devant un autre phénomène qui est le phénomène des enfants qui sont capables de fabriquer des modes ou de rejeter des modes. Mais dites-vous bien que Pokémon, et c'est une question que beaucoup de journalistes me posent, Pokémon, ce sera comme les Tamagotchi il y a 2 ans, ce sera comme les Pins il y a 5 ou il y a 6 ans, c'est-à-dire qu'un jour, ce truc-là va s'écrouler aussi vite que c'est monté. Pourquoi est-ce que les gosses prennent Pokémon et rejettent? Pourquoi est-ce que les gosses prennent les billes? Pourquoi est-ce qu'ils prennent les porte-clés? Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de mouvement de marée, qui ne sont absolument pas nouveaux, qui ne sont pas, à mon avis, des aliénations à l'égard de phénomènes énormes. Ce que je trouve le pire, c'est quand on nous interroge, nous, pour nous demander des explications sociologiques sur ces phénomènes. Alors, sur les, comment dire, sur les tatous, la mode des tatous, que n'a-t-on dit sur la mode des tatous? En quoi c'était révélateur d'une société dans ses composantes les plus fondamentales que ce désir de se faire des tatouages superficiels? Mais vous avez vu qu'au bout de 2 ans, c'était terminé. Donc, c'est des phénomènes. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des vagues comme ça de marketing qui marchent très bien. C'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de sociologie des tribus, c'est-à-dire des jeunes qui se retrouvent avec des systèmes de code. Il semble que Pokémon marche mieux que les autres. Il semble que Pokémon soit un business beaucoup plus fort que ne l'étaient les jeux de rôle il y a une dizaine d'années, que n'était ce genre de choses. Bon, là, il y a des phénomènes qui sont effectivement des phénomènes où le public jeune est très réceptif et donc ça peut aller très très vite. Et il y a une offre commerciale qui est plébiscitée alors que une autre offre commerciale va être rejetée à ce moment-là, mais on est sur des phénomènes qui sont des phénomènes qui en même temps s'inversent, c'est que les jeunes vont rejeter extrêmement brutalement, en général quelques années après. Rappelez-vous, sur 10 ans, tous les ans, il y a eu une tendance comme ça. Hein. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était les images Panini, si vous vous souvenez, enfin, etc., où il y avait une sorte de chose extraordinaire. Bon. Dernier élément, n'oubliez pas que l'enfant roi consommateur, là, je reprends le mot du roi. L'enfant roi consommateur est roi parce que l'enfant est rare. Et il est roi parce que ce sont les parents et les grands-parents qui le font roi. La plupart des marques chères de produits, de jouets et de jeux destinés aux enfants sont en fait très, très, très fortement achetées et ont une part de chiffre d'affaires considérable de la part non seulement des parents, mais encore plus des grands-parents. Donc là, il y a un jeu qui est un jeu extrêmement subtil et extrêmement complexe entre les différentes générations par rapport à effectivement ce grand pouvoir d'achat que représentent les enfants consommateurs.
Bien, on va prendre encore 4 questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, monsieur, monsieur, monsieur et monsieur. Voilà.
Bonjour.
J'entends, mais je ne vois pas.
Ah. Excusez-moi. Moi, je vous trouve un peu trop optimiste, comme tous les autres conférenciers. Vous avez opposé les pays riches avec les pays pauvres. Je ne trouve pas personnellement quelle est la différence entre un aliéné qui a pu consommer et un névrosé qui n'a pas pu consommer avec un pauvre qui n'est ni aliéné ni névrosé, mais serein et souriant. Donc, comparaison n'est pas raison. La liste est longue. La musique,
allez vite, s'il
oui,
vous plaît.
La consommation de la musique, elle a fabriqué des surdités. La consommation des images, elle a fabriqué des cécités. La liste est longue. Les produits de terroir ont fabriqué des morts sur la route. La liste, vraiment, elle est longue. Oui. Il y a aussi les intégristes de la consommation, je crois, et des non-consommations.
Bon.
Voilà. Bon. Alors.
Posez votre question, s'il vous plaît.
Le système de consommation actuel, il pousse à fabriquer un objet 10 fois pour être consommé une seule fois. L'excès, ou bien il faut détruire cet objet, ou bien il faut fermer la porte, c'est-à-dire fabriquer du chômage. Donc moi, je ne cherche pas à critiquer pour critiquer, simplement dire qu'il existe une alternative, c'est-à-dire dire au pouvoir public de créer un ministère pour l'éducation du besoin et aussi pour améliorer, pour diversifier la consommation. C'est-à-dire non pas simplement, comme il l'a dit, consommer la même chose, mais aussi, de temps en temps, un peu consommer de la spiritualité.
Je ne sais pas si ça demande une réponse.
Non,
peut-être l'éducation.
Juste rapidement, pour dire que moi, je pense qu'effectivement, il faut éduquer. Je ne pense pas qu'il faille éduquer aux besoins. Je ne pense pas qu'il faille éduquer à la consommation. Je ne pense pas qu'il faille éduquer à la publicité. Je pense qu'il y a une seule chose à laquelle il faut éduquer, c'est à la gestion d'un budget familial. Ça me semble capital, parce que c'était d'ailleurs quelque chose qui existait il y a un certain nombre de décennies. Il y a d'ailleurs un métier qui s'appelle les conseillères en économie familiale et sociale qui existe dans les HLM, un certain nombre de... Et je pense que ça, c'est très important, parce que je crois que le vrai problème, il est dans le fait que l'on peut s'endetter, il est dans le fait que l'on ne voit pas bien comment se mettre en place les dispositifs où on a une carte de crédit, etc. Je crois que le problème est là. Pour ce qui est de l'autre chose, j'entends bien ce que vous dites, mais je dois vous dire que, et ne prenez pas ça comme une sorte de position idéologique de ma part, mais je dois vous dire que quand on commence à vouloir choisir à la place des gens quels sont les besoins, les organiser à leur place, décider ceux qui sont bons, ceux qui ne sont pas bons, moi ça me glace le dos. Je vois bien les inconvénients de la société de consommation, mais je vois encore plus les inconvénients d'une société de ce type où on aurait décrété quels sont les produits de consommation qui répondent à des faux besoins, qui aliènent le consommateur, etc. Cette espèce de police sociologico-économico-politique me semble atroce. Par contre, le point sur lequel vous avez raison, et ça c'est vrai, c'est que tant qu'il y aura de la productivité dans notre société, on ne pourra avoir de la croissance que si on fabrique plus de produits de consommation et donc que si on est collectivement plus dépendant de la consommation. Et donc la vraie question, c'est de savoir comment on peut être collectivement de plus en plus dépendant et interdépendant de ces objets de consommation et en même temps de plus en plus capable de les maîtriser. C'est le rapport à la technique, mais ce n'est pas spécifique à la consommation d'ailleurs. C'est le rapport à beaucoup de types de choses. C'est une espèce de combat permanent. Peut-être qu'à cet égard, je suis plus optimiste que vous, c'est possible.
Alors, 3 dernières questions. Très bien. Monsieur est en haut. Tout
différents là. Points dont vous avez parlé, et surtout l'individualisme du consommateur, mais aussi la segmentation, la diversité des produits que l'on doit offrir, la volatilité de ces produits, puisque vous avez dit 70% disparaissent très rapidement des étagères. Tout cela suppose des producteurs, des distributeurs ayant les épaules extrêmement larges et par conséquent aboutit et indirectement à du chômage par la concentration des entreprises de production et de distribution. Est-ce que c'est vrai ce point de vue-là ou est-ce que c'est faux ?
Alors, je suis d'accord sur le début de votre conclusion, sur la fin de votre conclusion, pas sur le début. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, et ça c'est un autre défi, je crois qu'effectivement nous allons vers encore plus de gros. Alors, je faisais une conférence il y a 3 jours sur Internet et le commerce. Mon hypothèse sur Internet et le commerce, et là peut-être que je me trompe et peut-être que j'apparaîtrai comme pessimiste et non pas optimiste, je ne crois pas qu'Internet va faire que les petits vont régner à la place des gros, que quand il y aura en France ou ailleurs, quand il y aura 50 000 sites de gens qui produisent par eux-mêmes leur vin, leur pâté, leur truc, leur foie gras, et qui voudront le proposer aux consommateurs, ben, il y aura probablement beaucoup de moteurs de recherche très astucieux, mais je crains qu'il y en ait 45 000 qui ne trouvent pas beaucoup de clients. Donc je crois qu'au contraire, on va toujours vers des logiques de concentration. Je crois que le commerce sur Internet sera préempté par les groupes de grands commerces qui feront d'ailleurs des vitrines virtuelles en rapport avec une réelle. Donc qu'on aille vers les gros, ça me paraît complètement évident. Ça pose des questions. Il n'est pas sûr que d'aller vers les gros limite le champ des produits fabriqués. Par contre, ça en centralise la réflexion, ça en normalise la production, c'est incontestable. Et par contre, le point sur lequel, évidemment, je ne suis pas de votre avis, c'est celui qui renvoie ça à la question de l'emploi. C'est-à-dire que la question de l'emploi est une question un peu différente. Et pour ne pas faire une sorte de tautologie sur le thème « les gros, parce qu'ils ont une forte croissance, créent des emplois », ce que vous avez toujours entendu, je voudrais juste vous répondre par un tout petit exemple, qui est le fait, par exemple, que dans les grandes surfaces aujourd'hui, et donc la concentration du commerce qui passe par les grandes surfaces, la réflexion est plutôt vers l'idée de dire arrêtons de supprimer des emplois, il faut réintroduire des emplois. Et vous avez par exemple Walmart, qui est la première chaîne de distribution au monde, vous savez que la deuxième c'est Carrefour, qui a pris la décision de ne, à chaque fois qu'un emploi a été supprimé par des gains de productivité sur l'amont, sur la logistique, sur les achats, etc., de le recycler en emplois destinés au service client. Et il est vraisemblable qu'on n'ira pas, comme on l'a cru il y a quelques années, vers le magasin sans personnel, avec des systèmes d'auto-scanning où on passerait aux caisses directement et qu'il n'y ait plus de caissière, il est vraisemblable qu'on verra au contraire le retour des vendeurs, le retour de ces personnels-là. Et vous savez peut-être, dans la distribution d'ailleurs, qu'une des choses qui a le mieux marché au cours des 20 dernières années, plutôt que les hypersurfaces, ce sont ces grandes surfaces spécialisées de type Leroy Merlin, Fnac, Darty, Truffaut, etc., qui sont des grandes surfaces dans lesquelles le vendeur est réhabilité, dans lequel le vendeur est même d'ailleurs en nombre important, alors dans des conditions d'emploi, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, on va plutôt vers cette direction-là que vers une sorte de direction de continuer à supprimer les emplois à fond. Là, je réponds sur la logique de la distribution. Quant à la production, c'est encore autre chose.
Avant-dernière question. Et puis...
j'aurais aimé que vous précisiez un peu l'idée que vous faites de la notion de besoin. Parce que je ne vois pas très bien, c'est un peu flou, la délimitation entre besoin et ce que j'appelle à contre-cœur manipulation. Alors je vais être plus précis. Au début de ce siècle et bien avant dans le folklore, les femmes portaient toujours une coiffe ou un chapeau, ainsi que les montrent les cartes postales du début du siècle. Alors que maintenant, plus personne n'en emporte. Les hommes aussi en portaient et maintenant ils n'en portent plus. Est-ce que ça correspond à un besoin ? Lequel correspondait à un besoin ? Le fait de porter ou le fait de ne pas en porter ? Autre exemple, le monsieur qui est à ma gauche porte des chaussures qu'on appelait des chaussures de ville. La demoiselle de 20 ans qui est partie, là, qui était à ma droite, porte des tennis, c'est-à-dire des chaussures étudiées spécialement pour les terrains de sport ou les gymnases, mais porte ça en pleine ville, ainsi que beaucoup de personnes de son âge. Alors, où est le besoin, là ? Est-ce qu'il y a besoin ou est-ce qu'il y a autre chose, un autre phénomène ? Je pourrais donner d'autres exemples comme ça. Je vous laisse parler.
Oui, alors, en fait, ça m'est facile de répondre à votre question par la fin et ça m'est plus difficile par le début. Par la fin, oui, ben ça c'est très facile. Le besoin, c'est les chaussures. C'est pas le fait que les chaussures soient de ville, qu'elles soient sportives, qu'elles soient tout ce que l'on veut. Là, il est très clair qu'aujourd'hui, par exemple, les chaussures de sport ont maintenant incorporé une dimension immatérielle qui leur fait avoir beaucoup plus de sens que simplement le fait de permettre de courir sur les stades. De même qu'il y a 25 ans, les chaussures de ville avaient une dimension immatérielle qui était celle, par exemple, de donner l'impression qu'on était installé, qu'on était dans un costume qui posait, que l'on était devenu quelqu'un de respectable parce qu'on avait des chaussures de ville, même lorsque on ne les utilisait pas forcément à arpenter la ville. Autrement dit, le besoin, c'est la paire de chaussures, c'est très clair. Après, il y a une différenciation qui renvoie à cette dimension immatérielle. Alors, néanmoins, le début de votre question est effectivement un début qui me gêne plus que la fin, parce qu'il est vrai que d'un point de vue strictement conceptuel, il est vrai que ce que j'ai présenté tout à l'heure, comme les deux coins du côté du consommateur, c'est-à-dire cette attente d'un besoin d'un côté et cette attente d'imaginaire de l'autre, je vous ai dit tout à l'heure que quand l'acte de consommation se passait bien, cela se confondait. C'est-à-dire que votre voisine n'est pas capable de distinguer l'un de l'autre. Et votre voisin, je ne veux pas, puisqu'il est là, c'est plus facile de parler de celle qui est partie. En tout cas, il est vrai que lorsque l'acte de consommation se passe bien, eh bien les deux se confondent. Lorsque vous allez une semaine en vacances aux Antilles, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre le besoin en tant que tel de vacances, parce qu'on a besoin de vacances, et vous savez bien d'ailleurs que, y compris dans le combat ouvrier, la revendication de la reconnaissance du besoin de vacances a été quelque chose qui a été une lutte sociale. Donc ça n'allait pas de soi et c'est quelque chose qui a été reconnu. Et évidemment, à côté de ça, votre attente imaginaire qui est aujourd'hui de considérer que les vacances sont plutôt liées à une attente imaginaire de dépaysement, de soleil, de mer chaude, etc. Dans l'absolu, on peut aussi se reposer dans le Loir-et-Cher et ça coûte moins cher que d'aller aux Antilles. Néanmoins, cette espèce de besoin de se reposer, cette espèce d'attente imaginaire consistant à aller très loin, de même pour les paires de chaussures, lorsque l'acte de consommation se passe bien, ça se confond. Et c'est vrai que du coup aussi, si on raisonne d'un point de vue très conceptuel, on ne peut pas dire qu'il soit facile, dans une logique cartésienne, de fabriquer la frontière en disant « là s'arrête strictement le besoin et là commence l'attente imaginaire ». On serait plus, si on voulait être dans une logique moderne sur les sciences de formalisation de ce type, on serait plus dans une logique de type logique floue que dans une logique d'optique cartésienne. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire « là on est avec 80% de besoin et 20% d'attente imaginaire, donc on est quand même sur le registre du besoin ». Là, on est avec plutôt 70% d'imaginaire et 30% de besoin. Donc, on est plutôt sur le registre de l'imaginaire. Donc, voilà, sur votre question plus théorique et plus conceptuelle, je vous renvoie à cela en vous disant que c'est vrai que la frontière n'est pas aussi claire que cela, mais on peut raisonner en utilisant les logiques floues sur la façon de dire quand même il y a ces deux composantes qui fabriquent la demande du consommateur.
Bon, dernière question, monsieur.
Bonjour. Oui, moi j'étais assez étonné en fait de voir que dans votre conférence, vous n'avez pas vraiment parlé ou pas insisté sur le fait qu'on est dans une société basée sur la croissance. Dans cette société qui est basée sur la croissance, nous devons absolument consommer, quoi. Alors, bon, là on peut être d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas vraiment le sens de ma remarque. Quand on doit consommer, parler de liberté du consommateur, j'ai vraiment un peu de mal avec cette notion. Parce que si on me met dans une pièce, j'ai effectivement le droit de choisir si je vais dormir dans le coin à gauche, à droite, dormir au milieu. Mais en tout cas, je ne sais pas vraiment si j'ai le choix de dormir à l'extérieur de la pièce. Juste un exemple, moi je travaille dans une boîte qui fabrique des produits, par exemple, qui vont dans les dentifrices. Il s'avère qu'aux États-Unis, ils aiment bien les dentifrices qui font scratch. Donc on leur fabrique des produits qui font pour les dentifrices qui font scratch. Donc il y a peut-être un besoin là-bas. Sauf que du coup, en ce moment, on est en train de discuter de savoir comment est-ce qu'on va réussir à faire que ce dentifrice va être acheté en France. Et là, la liberté du consommateur, le besoin qui viendrait de lui, moi je ne la vois pas vraiment. Et bon, peut-être que mon entreprise est particulière, je ne pense pas vraiment. C'est une grosse boîte de chimie, donc je ne pense pas qu'elle soit vraiment particulière par rapport aux autres. Et là, la logique, elle est nette, quoi. Et le besoin qui viendrait du consommateur, je le vois vraiment pas, quoi.
Alors, attendez, le besoin du consommateur, a priori, il est de se laver les dents. Il est sur le dentifrice. C'est ça. Là. Attendez, il faut quand même essayer d'être un peu structuré dans nos réponses. Dans la façon de voir tout ça. Ensuite, il y a quel type de dentifrice ? Et là, il est évident que dans le domaine du dentifrice, comme dans le domaine de l'ensemble des produits, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer depuis tout à l'heure, c'est qu'au cours des 20 ou 25 dernières années, le processus de consommation s'est complexifié en intégrant des choses qui renvoient à de l'imaginaire, et des choses qui, dans le produit qui est fabriqué, renvoient à des dimensions immatérielles. Alors, l'imaginaire du dentifrice va pouvoir être la santé, l'hypersanté. Ça va pouvoir être, je ne sais pas très bien, la carence, le faire dériver vers une sorte de produit quasiment alimentaire en mettant des supplémentations qui ne sont pas sur le registre de la santé, mais qui sont sur autre chose. Il va y avoir tout un tas de choses possibles. Bon. Sur votre intervention de départ, qui est plus le début de votre intervention, qui est plus conceptuelle, qui est plus fondamentale, oui, et ben c'est bien le sujet. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la liberté du consommateur ne s'écrit pas dans sa capacité de refuser le processus de consommation, mais s'écrit dans sa capacité de choisir ses produits de consommation et d'être dans un rapport de négociation à de nombreux égards entre le choix du produit, le prix qu'il va avoir sur ce produit. Et de ce point de vue, d'ailleurs, Internet ouvre des possibilités nouvelles. Par exemple, on voit aujourd'hui avec Internet arriver les techniques de vente aux enchères sur les produits de consommation, quelque chose de complètement nouveau. Donc, ça se joue là. Mais ce n'est pas propre à la consommation, ce que l'on vient de dire. Dans le fond, aujourd'hui, en schématisant et sans vouloir vous caricaturer, mais pour montrer que je crois que les problèmes sont souvent comme ça, moi, je crois, et ça servira de transition avec la conférence de demain, je crois qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société où le travail est facultatif. La liberté à l'égard du travail ne se fait pas sur est-ce facultatif ou obligatoire. Ce débat a pu avoir lieu il y a quelques années, mais nous sommes dans une société où le travail est obligatoire. Je dirais, alors évidemment, certains peuvent le refuser en biaisant de certains types de façons, mais le travail est obligatoire. La liberté par rapport au travail se situe sur le type de façon d'assumer son travail, le type de choix qu'on peut faire par rapport à un travail ou par rapport à un autre, le type de stratégie que l'on a pour changer de travail et qualifier son travail. Voilà. Bon, à la limite, en étant même sur un registre très, très différent, je dirais, le choix est très large de savoir avec qui vous allez vivre, comment vous allez choisir un conjoint, mais probablement qu'à une échelle très globale, le choix n'existe pas vraiment de refuser l'idée de vivre avec des autres. Et dans le domaine de la consommation, et par rapport à la croissance et par rapport à l'économie, je crois que c'est comme ça que ça se présente. Et je crois qu'effectivement, l'idée de se dire il pourrait y avoir une alternative qui serait de refuser complètement la consommation, et non pas d'avoir une liberté uniquement dans le choix des produits, des marques, des moments où on va consommer, des lieux où on va le consommer. Je crois que cette liberté-là, cette espèce de méta-liberté par rapport au dispositif, fait crouler le dispositif, mais pas simplement le dispositif de la consommation, le dispositif de la production tout court, l'organisation même de nos sociétés aujourd'hui. Et à cet égard, je crois que c'est une réelle utopie.
Merci. Alors, demain à 11h, Alain Tourret.